Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous avoir avec nous. Je vais me présenter et puis après je laisserai Jeanne-Annie se présenter également. Merci beaucoup d'ailleurs d'abord d'être venu à notre atelier. Donc moi je m'appelle Anselme Jalon, je suis le directeur général de Nouma que je vous présenterai juste après. On va faire un petit atelier ensemble, une conférence qui va se dérouler en trois temps. D'abord, vous présenter ce qu'on fait chez Nouma, notre programme climat, avec un certain nombre de clients comme Figaro, Maïf, BNP Paribas, Disney et d'autres. Et ensuite, après, on aura un partage d'expérience avec toi, Jeanne-Annie, qui va te présenter dans deux minutes, sous forme de table ronde. Alors, on est debout et on n'a pas de table, mais ce n'est pas grave, on va se débrouiller quand même. On s'est dit que c'était quand même plus dynamique. Et que tu puisses nous partager ton expérience chez Maïf B2B. Et puis ensuite, après, j'espère que vous pourrez poser vos questions, qu'il nous restera un petit peu de temps. Voilà, les questions qui vous viendront. Ça vous va? Bon, bah super, génial.
T'avais pas de plan B de toute façon.
J'avais pas de plan B, donc je te laisse te présenter.
Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Jeanne-Annie Kumar, moi je travaille dans une direction de Maïf qui est la direction B2B. Donc, Maïf est plutôt connu pour son activité sur le marché des particuliers. Donc là, c'est plutôt une direction qui adresse les personnes morales. Et donc, je partagerai lors de cette séquence, en fait, comment nous, on voit le passage à l'action pour la mobilisation interne.
Super, merci beaucoup. Alors, pour commencer d'abord, que vous compreniez un tout petit peu qui on est aussi. Donc, nous, on est Nouma. Ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit, on délivre des formations, management, leadership, sur l'impact qu'on appelle ancré dans le réel. On est certifié B Corp, on va l'annoncer demain par ailleurs. On travaille autant avec des grands groupes comme Maïf, comme LVMH, comme L'Oréal, que beaucoup d'entreprises de la tech aussi, comme Swile ou Doctolib. Ce qui fait notre différenciation, c'est assez simple, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie situationnelle. Donc on a créé une base de plus de 500 études de cas tirées de la vraie vie, des cas business ou des situations du quotidien qui peuvent arriver à vos collaborateurs, à vos managers, à vos leaders, sur lesquels réagissent les participants et qui sont directement suivis des meilleures pratiques, des meilleures méthodes, des phrases un peu toutes faites pour qu'on rende la formation la plus applicable possible. Du coup, on co-construit concrètement des programmes avec nos clients, des parcours qu'on essaye de rendre le plus compatible avec leur quotidien et leur agenda est souvent chargé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des modules thématiques très courts qui durent seulement 2 heures, aussi en petits groupes de 10 à 12 participants maximum de la même entreprise pour favoriser l'échange entre pairs. On surfe sur la tendance du cohort-based learning pour ceux qui en ont entendu parler. Et donc, ce qu'on recommande, c'est de faire un workshop avec nos clients toutes les deux semaines ou toutes les semaines. Et c'est ce format court, 2 heures en ligne ou 3 heures en présentiel, c'est du live, hein, qui va créer le maximum d'interaction. Et puis à chaque fois, on va avoir un coach qui ne va pas être un consultant, qui ne va pas non plus être un professeur, qui va être quelqu'un qui a passé 15-20 ans dans des vraies entreprises proches de celles du contexte de nos clients et donc qui va animer avec nos contenus, mais avec une expérience très terrain, encore une fois, pour être le plus pratico-pratique possible. Une fois qu'on s'est dit ça, on intervient sur différents sujets, je vous l'ai dit. Là, je vous ai mis nos principaux parcours qui sont un peu nos best-sellers du moment. On va parler du programme climat, parce qu'on a la chance d'avoir Maïf comme client sur ce sujet, avec différents workshops comme transition climatique ou un workshop OKR dont je parlerai juste après. On intervient aussi beaucoup sur les sujets de leadership inclusif. On a un workshop de 2 heures autour de la collaboration interculturelle, un autre autour de la sécurité psychologique, un autre autour de l'intelligence émotionnelle. On a un gros programme autour de la quête de sens, comment on arrive à construire sa boussole pour définir la prochaine étape de sa carrière professionnelle ou trouver plus de sens à son métier et se réengager. Et puis on a un gros programme dont on est très fier autour de femmes leaders, justement qui n'est pas de leadership féminin, ni de leadership au féminin, mais de renforcer le leadership des femmes en leur faisant passer sur les suites classiques des workshops de leadership, mais en créant des cohortes uniquement de femmes pour favoriser l'entraide entre femmes et la sororité. On est là pour vous présenter un programme dont on va parler juste après. Ce programme, dans les grandes lignes, il se constitue de deux grandes phases. Une première phase pour les décideurs qu'on a déployée pour nos clients, avec un premier workshop de 2 heures autour de la transition climatique, où là, l'objectif, c'est vraiment de remettre tout le monde à niveau, d'aligner les décideurs sur un langage commun Et on se concentre principalement sur la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone, qu'est-ce que sont les différents types d'émissions, scope 1, scope 2, scope 3 du protocole GHG. Et on atterrit sur, OK, pour vous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les émissions significatives. Une fois qu'on s'est dit ça, on a un deuxième workshop inspiré de la méthodologie OKR qui s'appelle Climat de la vision à l'action avec les mêmes participants, où l'objectif est de passer justement d'une stratégie qui est souvent une stratégie 2050 à une stratégie 2024, et se dire c'est quoi les premières actions que vous pouvez engager pour le premier trimestre 2024. On termine par un plan d'action, un bilan avec du coaching pour rentrer vraiment dans le détail avec les décideurs sur quels vont être vos objectifs, vos résultats clés dans les 3-4 prochains mois. Et ensuite, comme ça ne suffit pas, et on va en parler, qu'on sait qu'il faut engager l'ensemble des couches hiérarchiques de l'entreprise, on passe à un workshop pour tous, ou pour l'ensemble des collaborateurs. On revient sur ce workshop de transition climatique autour du protocole GHG, de la compréhension du bilan carbone et des émissions significatives. Et ensuite, un workshop de contribution collective, où on peut aller jusqu'à 50 participants, on l'a fait, où on fait émerger des idées des participants qui sont bien sûr alignées avec les OKR, les objectifs qui résultent, qu'on aura définis en amont. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, bien sûr, nos workshops, je vais faire un petit zoom dessus, ils tournent beaucoup autour des études de cas. Donc ce premier workshop qu'on a appelé Transition climatique, pour vous donner un petit aperçu, l'objectif c'est, un, de comprendre quelle est la responsabilité d'une entreprise, parce qu'on va se focaliser uniquement sur l'axe business, sur la responsabilité des entreprises et pas celle des individus. Dans le changement climatique, on va utiliser le framework GHG et comprendre quels sont les différents types d'émissions, et puis identifier les émissions significatives dans différents secteurs et comprendre quels sont les premiers leviers qu'on peut activer. Et pour ça, on a juste décortiqué les bilans carbone de dizaines, de cinquantaines d'entreprises qui sont publiées, avec un regard critique aussi en définissant ce qui est compté, pas compté, ce qui devrait être compté parfois dans le scope 3. Donc là, c'est un exemple pour Coca-Cola. On détaille, ben voilà, voici la chaîne de valeur, les différents types d'activités, comprendre que finalement, c'est le packaging, le stockage, la réfrigération qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et pour cela, juste après, on fait réagir les participants, vos collaborateurs, vos leaders, sur quelles actions à mener pour un cas fictif, pas si fictif que ça, puisqu'on parle de Coca-Cola. On fait la même chose, on identifie pour différentes industries, pour coller au plus près des enjeux de nos clients. On le fait avec des industries lourdes comme Air Liquide pour identifier les émissions significatives, je vais y arriver, c'est la fin de journée. On le fait à des entreprises de services comme Accenture. On le fait à des entreprises qui sont bicorp aussi comme Backmarket. On le fait aussi avec des entreprises de distribution. Je crois qu'on a un exemple juste après avec DHL. Si ma zapette veut bien marcher et a décidé de tomber en panne, non, c'est bon, ça fonctionne. Et ensuite, on atterrit, ce que je vous disais, sur le bilan carbone de votre propre entreprise, s'il existe ou s'il n'existe pas. Évidemment, on sait s'adapter. Et on dit, ben voilà, vous analysez la chaîne de valeur de votre entreprise. À partir de ça, commencez à identifier, à deviner, selon votre intuition, bien sûr, aidée du coach et de tout le travail qu'on a fait en amont, quelles sont les émissions significatives là où ça a le plus d'intérêt de jouer, et ensuite identifier quels sont les premiers leviers d'action à activer. Et évidemment, ce deuxième workshop de l'action, de la vision à l'action, c'est une suite logique, puisque ici, on s'inspire vraiment du workshop du livre de John Doerr sur les OKR. Tout le monde, je pense, enfin, la majeure partie d'entre vous, sont familiers avec la méthodologie OKR qui a été inventée par Google, etc., dans les années 2000. Une méthode assez simple et transparente de faire de la stratégie et surtout d'engager à chacun des niveaux de l'entreprise, puisque normalement, quand on le fait bien, on définit au niveau du COMEX, finalement, les OKR, les objectifs et les résultats clés à atteindre. Et ensuite, chaque collaborateur a des OKR qui sont cohérents avec les OKR du COMEX. Et il se trouve que John Doerr a écrit un super bouquin que je vous recommande, qui s'appelle Speed and Scale, sur comment on peut adapter cette méthodologie OKR pour réduire l'empreinte carbone et coller aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Et donc, pour ça, on se pose finalement les questions essentielles. Vous avez une ambition, vous avez une stratégie climat, mais comment on la décline au niveau macro en objectifs qui résultent à très court terme, à 3 mois, et puis ensuite à la maille collaborateur. Et donc, pour ça, on passe bien sûr, encore une fois, par différentes études de cas. Donc là, on a pris la stratégie de Mondelez, l'entreprise de snacking, et on l'a déroulée en fait sous forme d'OKR. Donc se dire, par exemple, un des objectifs, c'est officiel, hein, c'est construire une chaîne d'approvisionnement durable. Ça veut dire, en termes de résultats clés à atteindre, par exemple, utiliser 100% de chocolat provenant de sources certifiées Cocoa Life, etc. Et derrière, quelles sont les actions à mener. En termes de storytelling, ça veut dire, l'objectif, c'est ça, On aura, d'ici 3 mois, on saura si on a réussi à atteindre ça. Et pour y arriver, on a défini telles actions. Une fois qu'on s'est dit ça, on passe ensuite dans ce workshop à toute une partie, je vais y arriver, autour de la définition des KR en tant que tels, des résultats clés. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de travail pour rendre vraiment concret, pour avoir des objectifs qui soient partagés, qui soient mesurables. Et donc, on travaille beaucoup sur comment définir des objectifs qui sont smart, donc qui sont mesurables, atteignables, que vous puissiez communiquer à vos équipes en se disant que si on a des objectifs qui sont clairs et qui sont partagés par toutes les équipes et qui sont cohérents les uns avec les autres, bien sûr, ça engagera l'ensemble des collaborateurs autour de votre stratégie de réduction d'empreinte carbone. Et donc, on le fait en prenant différentes entreprises plus ou moins fictives. Ici, on a pris un cas de complément alimentaire et on le fait à travers des cas aussi beaucoup plus complets. Ici, on a pris une entreprise d'équipement sportif. Donc ici, on prend la stratégie de Decathlon sur la réduction de l'empreinte carbone et on immerge les participants. C'est une salle virtuelle qui dure à peu près 15 minutes. Vous êtes à la tête de ce département RSE chez Decathlon et voici les 4 grands piliers de réduction de l'empreinte carbone de Decathlon, à la fois la partie produit, à la fois la partie point de vente, à la fois la partie modèle d'affaires, à la fois la partie fournisseur. C'est-à-dire quels sont les résultats clés que vous allez définir et derrière, quelles sont les actions que vous allez définir. Tout ça permettant de s'approprier le framework OKR pour différentes entreprises et ensuite être capable de l'appliquer dans un deuxième temps pour l'ensemble de vos collaborateurs et surtout sur le cas de votre entreprise. Donc voilà pour la partie présentation de ce qu'on fait avec nos clients. Je vous l'ai dit, on est très fiers de travailler avec plus de 120 clients sur ces sujets. Nouma, c'est 80 collaborateurs et près de 300 workshops par mois. Donc ça fait près de 3500 workshops de 2 heures par an. Donc aujourd'hui, c'est une belle machine et on est ravis d'être en plus Bicorp, en cohérent avec ce qu'on fait au jour le jour. Et on est ravis d'avoir Maïf comme client, en tout cas Maïf B2B sur ces sujets. Et du coup, on a prévu une petite table ronde. Je vais prendre mes notes pour avoir les questions sous la main. J'espère que c'était clair, en tout cas, pour cette présentation de qui on est et ce qu'on fait. Alors, Jeannanie, je vais te passer la parole. D'abord, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, je suis sûr que vous êtes plein à vous poser la question, qu'est-ce que Maïf B2B et qu'est-ce que Maïf B2B et c'est quoi les entreprises associées?
Alors, Maïf B2B, c'est tout d'abord Maïf Association Collectivité Entreprise. Donc, Maïf a commencé à adresser les associations en 1954 et s'est progressivement ouverte aux structures de l'ESS. Et très récemment, il y a 2 ans, on s'est également ouvert aux petites entreprises. Donc, c'était intéressant pour nous de vraiment continuer cet engagement. C'était assez naturel et simple sur la partie ESS, puisque par essence, ces structures sont engagées. Et il y avait un vrai challenge sur l'ouverture aux petites entreprises à accompagner les entreprises qui étaient déjà engagées, mais surtout à inciter les entreprises à s'engager dès leur création. On a dans cette direction B2B 2 filiales Maïf, donc la SMACL, qui est, si vous ne les connaissez pas, le premier assureur des collectivités territoriales, et Altima, qui est pour nous une entité qui fait plutôt de l'innovation, de l'assurance intermédiaire et tout ce qui est gestion de flotte auto, et également un peu de courtage. Donc ces 3 entités, dont 2 filiales, font partie de cette direction B2B.
Super, merci beaucoup. Quand on préparait cette table ronde, tu me disais que le climat, la réduction de l'empreinte carbone était un des enjeux clés chez Maïf B2B. Est-ce que tu peux revenir sur cet enjeu et toi sur ton rôle du coup chez Maïf B2B?
Complètement. Du coup, je vais rentrer un peu dans le détail de la stratégie Maïf. Donc, on a un plan stratégique qui a été livré en début d'année sur les années 2023-2026. Et il s'articule autour de 4 piliers. Donc, le premier concerne nos sociétaires et leur satisfaction. Le second, l'épanouissement de nos acteurs. Le troisième, bien sûr, notre performance économique. Et le quatrième, nos actions face à l'urgence climatique. Et donc, moi, dans cette direction B2B, je suis en charge de décliner ce quatrième enjeu qui regroupe, du coup, 4 initiatives stratégiques qui sont la mobilisation de notre communauté interne, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation de notre modèle assurantiel, puisque bien sûr on est challengé face au changement climatique, nos pratiques vont être différentes, et notre contribution à la solidarité climatique. Et donc moi j'ai en charge de décliner les actions, donc de construire une feuille de route et de la faire adopter par ces trois entités du B2B que je vous ai décrit précédemment.
Merci beaucoup, c'est super clair. Je propose qu'on se focalise pour l'instant sur la partie engagement de la communauté interne. Pareil, quand on préparait, c'est quelque chose qui m'a marqué. Pourquoi, pour toi, c'est quelque chose d'important? Pourquoi c'est la priorité? Et finalement, comment tu vas t'y prendre sur cette communauté interne?
Alors, pour moi, c'est une priorité. Alors, Maïf est déjà une structure qui est plutôt engagée. On est entreprise à mission. Mais ça reste prioritaire parce qu'on a ces filiales donc, qui n'ont pas forcément les mêmes priorités que Maïf, qui ont aussi d'autres enjeux. Donc, finalement, cette direction B2B, c'est 3 BU, 3 business units dans une entreprise. Et donc, l'intérêt de mobiliser, du coup, le top management... donc nos directeurs et donc les membres de notre CODIR, c'est de faire inscrire les objectifs que l'on souhaite porter au travers de la feuille de route climat B2B au sein des feuilles de route d'entités de chacune de ces entités. Et en fait, ça devient un entrain stratégique avec des objectifs qui y sont liés.
Super. Et justement, tu parles d'engager en premier lieu la communauté interne et en premier lieu le top management. Pourquoi vous avez décidé de commencer par eux ?
Parce que l'objectif final, c'est nos sociétaires. Je vous parlais de l'adaptation du modèle assurantiel qui était une vraie nécessité pour nous, mais pour le monde des assureurs de façon plus large. Et l'objectif étant de sensibiliser et d'apporter du coup, des solutions, du conseil, de l'expertise à nos sociétaires, il faut absolument que ce soit quelque chose qui soit clair en interne pour nous et que ce soit presque un sujet de compétence, en tout cas sur notre partie assurantielle, sur la partie risque, pour nos sociétaires. Et du coup, il y a bien différents publics dans nos structures. On a nos dirigeants, on a nos collaborateurs qui sont face aux sociétaires, et on a toute la partie middle management et les fonctions support.
Super, merci beaucoup. Tu me parlais de priorisation, je me permets de poser la question, parce que pour toi, c'est avant tout un sujet de priorisation, c'est ça ?
Complètement, parce que comme tout le monde, alors, même si on est convaincu... Que c'est un sujet qui a une très grande importance. En tant qu'entreprise, on est aussi challengé par la performance économique. Et du coup, si on ne priorise pas ce sujet, et s'il n'y a pas d'indicateurs clés et des indicateurs de résultats qui sont posés et dont les équipes doivent rendre compte où on est challengé sur le sujet, ça peut être, comme dans toutes les entreprises, face à des manques de capacité à faire ou des manques de budget, des choses qui sont dépriorisées. Il ne faut absolument pas que ce soit dépriorisé.
Donc, le pari, c'est de se dire que comme vous touchez... avant tout, en commençant par les top dirigeants, ils seront en mesure de prioriser parce que c'est à leur niveau que ça joue, j'imagine.
En général, quand il y a une commande dirigeante qui passe, dans la mesure du possible, elle est exécutée. Donc c'était une garantie non seulement d'avoir des sponsors, mais en plus d'avoir une bonne exécution dans toute la chaîne de valeur collaborateur interne.
Ok, super. Merci beaucoup. J'avais une autre question pour toi, Janani, sur les moyens d'action que vous allez mettre en place. Est-ce que ça va être juste de l'acculturation ? J'imagine que vous avez fait quelques fresques du climat et autres. Est-ce que ça va suffire, justement ? Comment tu prévois qu'est-ce que tu as déjà fait ? Comment tu prévois ton plan d'action là, sur les prochains mois, sur les prochaines années ?
Alors du coup, effectivement, il y a ce premier volet accompagnement pour notre CODIR B2B. Et ensuite, du coup, on pourrait aller vers des... Il existe plein de choses. Le CNED a mis en place une formation qui est complètement gratuite pour tous les publics et qui est très bien faite. Mais j'ai peur peut-être que nos collègues soient livrés à eux-mêmes avec juste des modules et des cours en distanciel. Je pense qu'un bon panache de ce qui peut exister aujourd'hui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'il faut absolument une acculturation, bien sûr, théorique, mais ensuite, il faut de l'accompagnement à la mise en pratique, et notamment sur le volet final, qui est la sensibilisation et le conseil aux sociétaires. Là, il faut l'accompagner, il faut le mettre en situation, et donc, il faut aller un peu, à mon sens, un peu plus loin qu'uniquement de l'acculturation.
On peut revenir sur peut-être le rôle des autres strates de l'entreprise, notamment le rôle des managers. Tu me disais que pour toi, c'était un rôle assez critique.
Oui, c'est assez critique. Pourquoi ? Parce que sur le sujet du climat, on a deux stratégies à mener en parallèle. On a la stratégie d'atténuation, donc c'est tout le sujet où l'on doit réduire nos émissions carbone et l'empreinte de notre activité. et le sujet adaptation. Et le sujet adaptation, il va forcément conseiller il va concerner nos sociétaires. Et on se rend compte sur les cas d'usage que parfois c'est pas évident de concilier adaptation et atténuation. Et donc souvent le middle, il est confronté à ça, c'est-à-dire que le sociétaire ou même le conseiller va l'alerter sur son exposition au risque et le sociétaire va mettre en place des choses qui vont être résistantes aux différents aléas climatiques. Pour autant, si on veut être dans notre trajectoire de réduction d'émissions carbone, il faut construire en bas carbone. Et si on prend par exemple de l'habitat, construire en bois sur une zone inflammable, c'est pas forcément évident. Et du coup, il y a tout ce sujet de rendre possible finalement des objectifs qu'on se fixe en tant qu'entreprise et entreprise à mission, et la fragilité et la vulnérabilité de nos sociétaires qui vont être en première ligne face aux conséquences du changement climatique.
Très clair. Peut-être qu'on peut... Moi, j'avais une question sur les sociétaires eux-mêmes. Tu me disais, on s'est dirigé vers les PME. Je sais que vous avez aussi des collectivités, mais finalement, le sociétaire, c'est comme ça que vous les appelez, c'est finalement quelque chose d'assez varié. Comment vous arrivez à adresser autant de diversité en termes de sociétariat, c'est ça qu'on dit ?
Alors, déjà, on a une bonne connaissance de la couverture, donc ouais. ça marche bien. Après, il y a peut-être des publics qui sont plus vulnérables et qui sont à traiter en priorité, et du coup, notamment les collectivités. L'impact sur les territoires des collectivités est assez important. Elles sont puissantes, ces collectivités, et surtout, ce sont les premières qu'on voit très vulnérables aux risques climatiques. Et du coup, nous, on a connaissance aujourd'hui que certaines collectivités ont beaucoup de mal à s'assurer. On est sur des propositions tactiques parce qu'on est sur de la courte durée. Mais à long terme, ce sont des modèles qui ne sont pas viables. Et donc, typiquement, la collectivité, les collectivités territoriales sont un public assez fragile. Et en fonction des aléas climatiques auxquels elles sont exposées, vont devoir prendre en main certaines formes d'adaptation et inciter tous les acteurs économiques de leur territoire à faire de même pour prioriser ces actions et être résistante finalement sur les prochaines années.
D'accord. Et sur les collectivités, est-ce que tu as des exemples à nous donner de comment vous commencez à les accompagner sur ces sujets justement de transition climatique ?
Aujourd'hui, c'est beaucoup la prévention qui est notre principal levier. La prévention en attendant d'autres solutions, c'est notamment en passant par des outils type aux alentours. Un outil qui a été développé par Maïf qui agrège pas mal de données publiques et qui permet à l'adresse par exemple de découvrir son exposition. Et donc en fonction on va proposer à nos sociétaires différentes solutions. Alors ce ne sont pas des solutions en propre, c'est souvent des solutions connues, publiques, etc. Pour qu'ils essayent de se prémunir et notamment les alerter sur les prises en charge possibles et sur les différents moyens qui existent et qui ne sont pas forcément connus.
D'accord, merci beaucoup. Peut-être que vous posez cette question, en tout cas moi je me la posais. C'est vrai que chez Maïf, vous avez la chance d'avoir un top management assez engagé. Il y a quelques semaines à l'université d'été des entreprises, l'UED, on a beaucoup vu Pascal, qui est président du mouvement Impact France, Pascal Demurger. Je me suis dit, peut-être que dans la salle, il y a des PME, des ETI, des grandes entreprises qui n'ont pas la chance d'avoir un directeur général aussi engagé. Comment on fait ? Quel serait le conseil que tu peux leur donner ? Si jamais ils n'ont pas un appui aussi fort du top management comme vous pouvez avoir chez Maïf.
Je pense qu'il faut convaincre et peut-être que l'argument aujourd'hui qui pourrait marcher sur la partie entreprise, c'est peut-être que c'est vraiment les modèles économiques qui sont challengés. Alors nous, on est en première ligne en tant qu'assureur, mais demain, face à ces expositions dangereuses, les modèles économiques, la pérennité des structures sont menacées. Et donc, pour quelque part asseoir une certaine sécurité, il faut prendre des mesures dès maintenant. Et typiquement, il y a le rapport de Stern qui dit que le coût de l'inaction coûte plus cher que de mettre en place des solutions de prévention. Donc là, on peut carrément l'amener sur la partie économique, en se disant que c'est un investissement qu'on fait et c'est pas un centre de coût.
très clair. Merci beaucoup. Peut-être dernière question. Avec nous, on commence un programme ensemble. Tu veux en parler en 2 minutes?
Avec plaisir. Du coup, effectivement, nous, on commence à travailler ensemble, du coup, le 3 octobre, pour justement mobiliser notre CODIR B2B. Et donc, ce premier atelier sert à mettre à niveau l'ensemble de ce public-là. Et donc, effectivement, même si on est dans une entreprise qui est plutôt engagée, où il n'y a pas forcément besoin de convaincre, l'alignement n'est pas forcément là. Chacun a des sensibilités, chacun a des priorités du quotidien. Et donc, pas forcément le temps et la possibilité de se mettre à niveau sur le sujet. Donc ça, c'est une première étape. On a une seconde étape quelques semaines après, au mois de novembre, pour effectivement se challenger et donc appliquer la méthode que tu citais avec l'appropriation via les indicateurs, enfin la méthode OKR. Et donc, on profite de cet atelier, parce que moi, du coup, c'est une des choses qui m'a beaucoup plu. C'est à ce moment-là que chacun des directeurs de cette direction va s'approprier en fait ses résultats clés pour les inscrire dans sa feuille de route qu'il va du coup proposer à ses équipes. Et donc moi, ça me garantit que finalement la feuille de route climat, elle soit bien intégrée dans la feuille de route, la trajectoire, la feuille de route business hein, de chacune de ces entités. Et la troisième session, en fait, elle servira de partage. Donc, revenir sur une partie de l'atelier 2 et aussi de commencer à construire l'année 2024.
Merci beaucoup. Je crois que j'ai épuisé les questions que j'avais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Non, ça va?
Ça va.
Nickel. On est prêt de faire court.
Merci
à
tous.
On sait que voilà, on est fin de journée, il est 17h et vous avez eu 2 jours avec beaucoup de bruit. Donc, est-ce que vous avez des questions pour nous? Questions pour Maïf. C'est le grand moment de solitude. Ouais, allez-y, super. On aura au moins une question.
Je commence.
Allez-y.
C'est une question pour vous. Sur la formation, comment vous intégrez la partie gestion du changement? Parce qu'il y a quand même une grosse partie dans cette transition écologique qui est sur la gestion du changement.
Alors, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous entendez par gestion du changement? Parce que ça peut être un terme assez large pour le coup.
Accompagner du coup les équipes dans cette transition, mm-hmm. et justement un vrai changement avec des objectifs. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre dans cette formation pour leur faire comprendre qu'il y a ce besoin de changement et qu'on doit tous y aller dans cette direction? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre formation ou...
Alors, on part du principe que déjà la transition climatique est une nécessité. C'est-à-dire que si on arrive avec des climato-sceptiques, des gens qui sont vraiment très opposés, c'est vrai que ça va être compliqué. Donc on part du principe que pour rentrer dans cette formation, il y a déjà un minimum d'acculturation qui a été fait, parce que c'est déjà une première couche qui est nécessaire. Et pour ça, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il y a énormément de choses qui existent de manière plus ou moins gratuite. Tu parlais du CNED et autres, donc qui me paraît être un bon prérequis, une bonne première base en termes de gestion du changement. Ensuite, nous, notre positionnement, c'est plus de dire, bah, déjà, il y a un axe à se dire... On va parler uniquement de l'action des entreprises et pas de l'action individuelle, donc on prend un angle très business, et on va finalement passer à travers différents cas fictifs, parce que parfois ils ne sont pas fictifs, je vous ai montré les cas d'Air Liquide, Coca-Cola, DHL et autres, qui vont permettre de comprendre et de créer un langage commun, que tout le monde en fait se comprenne l'entreprise, quand on dit scope 1, scope 2, scope 3, quand on parle de bilan carbone, de budget carbone, etc. Donc déjà, créer ce premier alignement, vous parlez, Janani, en termes de change management, c'est souvent une des premières étapes qui est absolument nécessaire. J'ai tendance à dire souvent, quand on fait du change, soit le poisson pourri par la tête, soit il vaut mieux commencer à nettoyer un escalier par le haut quand on nettoie. Vous prenez la citation que vous préférez, la moins violente. Et ensuite, après, justement, on descend dans les différentes strates de population. Et donc, on a fait même avec certains de nos clients des ateliers jusqu'à 80 collaborateurs. On repasse sur cet atelier de transition climatique pour créer le changement. Et ensuite, après, on génère des idées. Donc là, on est dans du change management, puisque du coup, on va permettre à l'ensemble des collaborateurs dans les directions de proposer des actions qui vont s'inscrire dans les OKR qui ont été définis par les managers. Et ensuite, après, s'il y a besoin d'avantage d'accompagnement, on met en place des dispositifs de coaching par petites équipes. quelque chose qu'on fait beaucoup avec nos coachs. On est une académie de près de 80 coachs un peu partout dans le monde qui sont capables du coup d'accompagner les équipes comme si c'était de l'accompagnement en innovation, de l'accompagnement en start-up. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui interviennent dans d'autres structures. On a un gros programme pour Betagouv qui est un de nos principaux clients dans lequel on accompagne beaucoup de projets autour de la transition écologique, puisque notre client c'est le ministère de la transition écologique. Donc ils sont coachs pour les start-up d'État et ils sont aussi capables du coup d'accompagner de manière très opérationnelle des porteurs de projets pour les aider à changer de manière individuelle, de posture, de comprendre, puisqu'on est aussi convaincu que ce sujet de la transition climatique c'est aussi un changement culturel, et qui d'ailleurs c'est le thème de cette édition Pro Durable, hein, j'invente rien, et puis ensuite des dispositifs très opérationnels pour marquer le rythme, pour être sûr que les bonnes méthodologies sont utilisées, pour apporter un apport d'expertise si c'est nécessaire.
Ok, merci.
Ça répond à votre question ?
Parfait, merci.
Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Non, c'est bon ? Vous êtes fatigué, vous avez envie de rentrer chez vous. Ah, génial. Ah, bah, je dis génial par principe. Pas génial alors.
En fait, si. En fait, ma question, c'est, vous avez qu'un prisme climat, parce qu'on vous ouvrez vers... Parce que là, vous avez dit transition, mais on parle beaucoup de biodiversité, donc de surexploitation des ressources naturelles. Est-ce que vous élargissez au-delà du thème donc climat ?
Pas encore, mais ça va venir. On est une entreprise de contenu, Nouma. Voilà, on a ce catalogue aujourd'hui, on vous l'a mis dans les documents là, de près de 43 workshops. Ce qui est bien, c'est que ça permet à nos clients de s'appuyer sur un existant. On ne vient pas vous voir, j'ai fait du conseil avant pendant 12 ans. Donc en disant on va réinventer la roue et il faut créer un dispositif qui vraiment va être sur mesure pour vous, et du coup on facture beaucoup sur la conception et on marche pas sur l'animation. Là nous, voilà, la conception elle a déjà été faite, on facture au prix du workshop. Donc développer ici les 3-4 workshops sur la transition climatique, ça nous a pris finalement toute l'année 2022-2023 quasiment. Donc chaque workshop c'est quasiment 2 mois de création avec nos coachs, avec notre direction produit. Donc là on a commencé par le climat parce que ça nous semblait être la zone prioritaire pour commencer. Évidemment que les enjeux de biodiversité sont dans la roadmap 2024. Si vous êtes intéressé, on peut en parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que c'était clair ? Oui ? Allez-y. Janani.
Oui, si j'ai bien compris, vous avez des enjeux de décarbonation en interne et pour vos clients, j'essaie de reformuler. L'idée, c'est de les accompagner pour mieux les assurer, pour leur faire découvrir leur risque climatique, c'est ça ?
Alors, il y a deux volets. Il y a le volet, on doit les accompagner pour qu'eux-mêmes décarbonent leur activité. Et ça, c'est sur la partie atténuation, en fait, de faire en sorte que finalement toutes les conséquences de notre activité soient décarbonées. Et donc, c'est de l'accompagnement à nos sociétaires aujourd'hui via part du contenu. Et il y a également le côté adaptation, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont être vulnérables. Nous, on sait qu'aujourd'hui, si on est très, si je vais à la simplicité, l'assurance, s'il y a plus de sinistres, elle va coûter plus cher, et on pourrait se dire, on impacte, nous on est toujours une mutuelle, on n'a pas d'actionnaire, donc la cotisation elle sert à payer les sinistres des uns, donc il y aurait plus de cotisation, donc ça c'est aussi pas possible. Donc du coup l'idée c'est de se dire, il faut que dans un contexte où les sinistres sont de plus en plus fréquents et intenses, on peut pas jouer sur la fréquence, mais peut-être qu'on peut jouer sur l'intensité, et donc le dommage il faut qu'il soit moins important pour que nos sociétaires restent assurables et que nous on ait des coûts qui restent gérables, absorbables. Et ça passe par du comportement. Donc, il y a deux volets.
Merci.
D'autres questions ? Non, c'est bon. Je vous donne rendez-vous si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Ce qu'on fait, c'est des workshops démo, tout simplement. Donc, on a 12 places. et vous pouvez vivre en vrai un workshop transition climatique. La seule différence, c'est que nous, quand on le fait, c'est 12 participants de la même entreprise, donc 12 managers de Disney, de BNP Paribas et autres, les clients avec qui on travaille sur ce sujet. Ici, ce sera avec 12 prospects, des gens qui n'ont pas encore acheté, qui ne sont pas encore chez nous. Donc ça change un petit peu, mais pendant 2 heures, vous aurez un vrai coach, Nouma, et vous vivrez l'expérience comme si c'était la même. Et donc c'est le 5 octobre à 10h. Et si vous voulez vous inscrire, il faut aller voir Karina, la brésilienne de l'équipe, ou Victor, qui est là, qui n'est pas brésilien, mais qui est très sympa aussi. Et ils vous trouveront des places. Voilà. Et c'est gratuit, bien sûr. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être avec vous.
Merci
beaucoup. À bientôt. Merci à vous.